Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode qui est un peu particulier parce qu'il est très personnel. Je suis tout seul dans cet épisode et je vais vous parler de mon expérience à Montréal. Donc je reviens de plusieurs mois à Montréal. Je suis arrivé le 4 septembre et je suis reparti le 1er août. Donc si ça tente d'entendre mon ressenti sur cette expérience, sur les cours du soir à l'École nationale de l'humour, mon point de vue sur l'humour à Montréal, sur les shows que j'ai pu voir et les comédie clubs à ne pas manquer, cet épisode devrait t'intéresser. Après honnêtement, je vais vraiment raconter ma vie et mon expérience, donc c'est très personnel. Donc si ça t'intéresse pas, ça me dérange pas. Mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, si t'as déjà écouté le podcast, tu sais que je suis un très gros fan d'humour québécois. J'ai découvert l'humour québécois avec Stéphane Fallu quand j'étais ado. Et depuis, j'ai consommé tout ce qui se fait en humour québécois. Que ce soit les humoristes, les shows sur Netflix, les spectacles sur YouTube, les extraits de Juste pour rire, les séries comme Le cœur a ses raisons, ou alors Like moi, complètement lycée pour la plus récente. Les émissions télé comme En route vers mon premier gala, les 5 prochains, le prochain stand-up, etc. J'ai vraiment consommer tout ce que je pouvais à distance. Et un de mes rêves depuis que j'ai 15 ans, c'était de m'inscrire à l'École nationale de l'humour, de suivre la formation d'humoriste, qui est une des seules formations en humour reconnues dans le monde, et qui est très réputée. Et il y a une très grande majorité des humoristes que j'admire au Québec qui ont fait cette école. Et donc ça m'a toujours fait rêver énormément. J'ai mis le site dans mes favoris depuis très longtemps, et je pense que je l'ai consulté tous les ans pendant très longtemps. Et je pense que ça me faisait rêver même avant que je fasse moi mes premières scènes, parce que j'ai fait mes premières scènes à la fin du secondaire, à une époque où il y avait très peu de scènes en Belgique. Et quand j'ai terminé le secondaire, j'ai envisagé de passer le casting, de découvrir le milieu de l'humour à Montréal, mais spoiler, j'ai jamais osé le faire. Je suis parti en voyage là-bas avec ma meilleure amie Mathilde, et déjà partir en voyage comme ça, c'était déjà une énorme sortie de zone de confort pour moi, parce que c'est la première fois que je quittais la Belgique, la première fois que je voyageais sans personne, donc c'était déjà une sortie de zone de confort. Après, j'ai commencé mes études de prof, parce que j'ai une formation de professeur d'anglais et de néerlandais, et j'ai fait un peu plus de scènes, j'ai beaucoup joué en impro, et à la fin de mes études, j'ai à nouveau envisagé de partir à Montréal avant de commencer à travailler. Mais encore une fois, j'y rêvais sans jamais croire que c'était vraiment possible pour moi de le faire, donc je ne l'ai pas fait. J'ai pas osé le faire. J'ai commencé à travailler comme prof en journée, en secondaire, et j'ai vraiment détesté ça, alors que je disais que j'allais faire prof depuis que je suis enfant. Mais j'ai détesté travailler en secondaire, donc j'ai essayé les cours du soir avec des adultes, donc des gens plus motivés à suivre les cours, ce qui rendait la chose plus agréable, et j'aimais ça. Donc, les élèves étaient contents de moi, la direction également, et tout ça. Mais je travaillais tous les soirs de la semaine, ce qui fait que j'ai beaucoup délaissé l'humour, j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé, vraiment pas. Et cette envie de faire de la scène, ça me quittait pas. À chaque scène qui se passait bien, l'envie était un peu plus forte. Mais quand une scène se passait moins bien, là, ça me confirmait un petit peu ce que je pensais, de me dire que j'avais pas ce qu'il faut pour y arriver. Je sais pas si je l'ai, mais j'essaie. Et les années ont passé, mais je lâchais pas cette envie d'être humoriste. J'en reparlais tous les ans à ma copine. Je disais tout le temps, ah, si seulement j'avais fait l'École nationale de l'humour, il faudrait que j'essaie, il faudrait que je me lance. Il faudrait, mais en vrai, je faisais pas grand-chose pour que ça évolue. Je me rappelle de Shirley Soignon, à qui je parle au Kings of Comedy Club, et je lui dis « Ah, j'aimerais bien faire plus d'humour, mais je travaille le soir, donc c'est pas optimal. » Elle m'a dit « Oui, c'est l'excuse que tu as pour le moment. » Et je pense qu'elle a lu un petit peu, comme dans un livre ouvert, parce que c'était vraiment ça. C'était une facilité de dire « Ah, ben, je peux pas, c'est à cause du travail. » Mais en même temps, je n'essaie pas. En 2020, après, j'ai commencé mon podcast, et j'ai pu parler directement avec les humoristes québécois que j'admire et qui m'ont encouragé vraiment à venir à Montréal, à faire l'École nationale de l'humour, à tenter, à essayer d'être humoriste parce que c'est un métier qui les passionne également. Et qui remarquait que moi aussi je suis quelqu'un qui est passionné par l'humour et que ça se ressent, que c'est quelque chose qui m'attire. Donc il faut que je tente pour ne pas avoir de regrets et tout ça. Donc ça continue à alimenter cette envie que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Et puis après, en septembre 2021, j'ai quitté une des écoles dans laquelle je travaillais pour me libérer les jeudis soirs et pouvoir jouer au moins une fois par semaine, ce que j'ai fait. Et en décembre 2021, mon meilleur ami d'enfance, Maxime, que je connais depuis que j'ai 3 ans, on se connaît depuis la maternelle, il me dit que lui, il va partir à Montréal en PVT. Donc c'est un permis vacances-travail, c'est un visa qui te permet de travailler et de voyager au Québec, mais sans obligation. Donc t'es pas obligé de travailler si tu as les moyens de voyager sans travail, ce qui n'était pas mon cas. Et pour la Belgique, tu y as droit pendant un an et jusqu'à tes 30 ans. Et ma copine, qui a toujours les mots justes et un tact légendaire, me dit, parce que quand il m'annonce qu'il va partir à Montréal, elle me dit « Ah ben voilà, est-ce qu'il serait pas en train de faire ton rêve à ta place ?» Et c'est pas faux. Et alors elle me dit « Tu déciderais pas à te bouger un petit peu ?» Et en vrai, moi j'étais tellement jaloux de voir que lui il partait et que moi j'avais trop peur de le faire, que j'ai jamais osé le faire. Lui, il le fait, un peu sur un coup de tête. Et donc on en a beaucoup discuté avec ma copine et avec Maxime qui me demandait « Mais en fait, qu'est-ce qui t'en empêche vraiment de le faire ? Qu'est-ce qui te bloque ? C'est la dernière année que tu peux le faire, après tu vas le regretter. » Et alors, bah, je vais vous dire les choses qui me bloquaient. La première chose, c'est que je suis très mauvais en tout ce qui est administratif. Je pensais que j'allais jamais réussir à remplir tous les papiers qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter au niveau administratif. Mais Maxime m'a dit « Bah, je l'ai fait pour nous, je peux le faire pour toi. » Donc en fait, t'as pas d'excuses à ce niveau-là. Et en plus, on verra. Si t'es accepté, t'es accepté. Et si t'es pas accepté, bah, au moins, t'auras essayé. Première excuse, bah, elle marche plus. Deuxième chose, j'ai un travail. Elle me dit, et là directement, ça fait, bah, tu peux prendre une pause carrière. Ce que j'ai fait en fait, hein, donc cette excuse-là marchait pas. Et je me disais que financièrement, j'avais pas les moyens pour faire l'école, pour vivre sur place. Et en effet, l'École nationale de l'humour, c'est vraiment un gros budget. C'est 17 500 € pour les 2 ans. Plus les frais sur place, et en plus c'est difficile de travailler tout en faisant l'école. Donc vraiment l'école c'était pas envisageable parce que j'avais pas d'argent de côté. J'allais dire pas assez, mais en fait pas. Mais après ma copine me dit « Mais tu peux suivre les cours du soir, faire des scènes là-bas un maximum et trouver un travail. » C'est vraiment faisable de trouver un travail là-bas et de pouvoir goûter au milieu de l'humour et de au moins de goûter un petit peu à ton rêve, même si c'est pas exactement le rêve que tu avais en tête au départ. Donc voilà, ma deuxième excuse était tombée. Troisième excuse que j'avais, c'était que j'avais pas envie de laisser ma copine pendant un an. Et elle m'a tout de suite dit non, je serai pas ton excuse pour que tu suives pas tes rêves. Un an, ça passe super vite. Puis qu'est-ce qui te fait croire que si tu restais, on resterait ensemble ? Alors merci, après ça, ça va beaucoup mieux. Mais en vrai, elle a raison. Peut-être que je vais le regretter dans plusieurs années, alors que ça tombe, on sera même plus ensemble. Je le souhaite pas, je pense pas, je pense qu'on va passer notre vie ensemble, mais en vrai, c'est pas faux. Voilà, ma troisième excuse était tombée. Hein. Et elle me dit, c'est la dernière année que tu peux le faire, tu risques de le regretter plus tard, au moins essaie. Ce n'est qu'un an. Et si après quelques mois, ça ne va pas, t'as envie de rentrer, je te manque trop parce que je suis exceptionnel, ben tu rentres, c'est pas grave, au moins t'auras essayé. Tu ne te diras pas, je n'ai jamais essayé. Et là, c'était des arguments qu'il fallait hein, pour me convaincre. Et ce soir-là, il y a mes potes qui ont pris rendez-vous pour moi, pour que je fasse un passeport pour pouvoir lancer les démarches. Et donc à partir de là, on les a fait ensemble. En mars, ma copine elle m'a offert 3 jours de masterclass avec Yacine Bellous à Paris, ce qui pour moi était déjà une énorme sortie de zone de confort d'aller à Paris tout seul. D'ailleurs, s'il y a des humoristes qui m'écoutent et qui veulent progresser en stand-up, je vous conseille vivement la masterclass avec Yacine Bellous, il est incroyable. La formation, elle est géniale, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a apporté plein de clés, et je le conseille vraiment vivement à tout le monde. En plus, Yacine est vraiment la meilleure personne au monde, donc s'il y a vraiment quelqu'un qui mérite qu'on suive ses masterclass, ce serait lui. Donc voilà, je vous le conseille. Et moi, j'en ai profité une fois que j'étais à Paris pour faire mes papiers, parce qu'il y a des papiers qu'on a fait à l'ambassade à Paris, donc j'en ai profité pour le faire. Et j'ai été accepté pour le PVT, parce que grâce à Maxime, j'avais rempli tous les documents correctement. J'ai réservé mes cours du soir à l'École nationale de l'humour et j'ai vendu ma voiture pour avoir un peu d'économie. J'ai loué un Airbnb pour pouvoir chercher sur place un logement et un travail. Et c'était parti, quoi. Alors j'ai réservé mon vol, mais comme je suis un idiot, j'ai pris un vol avec escale à Reykjavik en Islande, un vol de 13 heures. alors que mon meilleur ami lui a réservé après moi pour le lendemain pour un direct moins cher et avec plus de valises. Bref, je suis un génie. Après ça, c'était le moment des au revoir avec ma copine, ça a été assez dur. Puis j'ai pris l'avion, tout s'est bien passé, j'ai été accepté aux douanes, j'ai reçu mon permis de travail, je suis monté dans le bus 747 pour rejoindre mon Airbnb, je suis descendu du bus, j'ai regardé sur mon téléphone le chemin, ça y est, je suis à Montréal, je l'ai fait, c'est parti, je suis trop fort, j'ai réussi à faire tout moi-même, c'est parfait. Là, je veux prendre ma valise, je me rends compte qu'elle est restée dans le bus. Waouh, ça commence fort, hein ? Alors pour ceux qui ont suivi sur Insta, vers 2h du matin, j'ai pu la récupérer et me rendre à mon logement. Mais à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi je suis là ? Je suis même pas capable de faire ça tout seul, j'ai déjà plus de valise. Donc voilà, le début était compliqué. Alors j'avais pris un Airbnb sur la rue Notre-Dame, près du marché Atwater, et à 20 mètres d'un A&W, donc un fast-food qui allait me nourrir tard le soir après des scènes d'humour, je vous le conseille. Alors mon premier gros stress, c'était de trouver du travail, un truc qui me tente au moins un minimum, que je me sens capable de faire et qui me permet de faire de l'humour le soir, donc qui me libère au moins à 18h. Et je me disais que ça va être dur, j'ai aucune qualification, j'y arriverai jamais, je suis pas capable de trouver du boulot. Deux jours après, j'ai trouvé. J'ai atterri le 4, j'ai postulé le 6 et j'ai commencé à travailler le 8 à temps plein. J'ai travaillé jusque fin juillet là-bas, à Première Moisson, donc c'est une chaîne de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, etc. Et si vous m'écoutez depuis Montréal, franchement, allez-y, c'est au marché Atwater. J'y ai rencontré des gens incroyables qui ont vraiment fait en sorte que je me sente bien à Montréal. Donc si elles m'écoutent, un énorme merci Julie, Margot, Jeanne, Anna, Mélanie, je vous aime. Et j'ai vraiment eu la chance de vous rencontrer, vous avez été incroyables. En plus, vous êtes venu voir énormément de mes shows et ça m'a vraiment fait plaisir de voir vos sourires et entendre vos rires pendant les spectacles. Merci beaucoup pour ça. Alors le seul défaut de ce travail, c'est que je faisais les ouvertures souvent et je devais me lever à 5h du matin. Et quand t'as un show la veille, c'est compliqué, surtout quand c'est plusieurs fois dans la même semaine. Honnêtement, j'ai jamais été autant épuisé que quand j'étais à Montréal. Je me suis endormi un peu partout dans la ville, dans les parcs, dans les salles des employés, dans les loges. J'ai même réussi à m'endormir aux toilettes et à faire tomber mon téléphone par terre. La classe. Mais mon préféré, c'était dans le métro, la ligne orange direction Montmorency. Vraiment, c'était les endroits où je dormais le mieux. Et pour la petite anecdote, avec le travail, j'ai aussi cru que j'allais me faire virer le troisième jour parce que j'ai renversé toute une échelle de nourriture au complet dans le monte charge. Donc vraiment pour énormément de nourriture, tous les cuisiniers avaient fini de préparer, les pâtissiers, tout ça. Et ma responsable Jeanne, en fin de journée, dit « Bon, on va revoyer Régis ». Et j'ai dit « Et j'étais là quoi ?»« Hein ?» Bah oui, c'est vrai que j'ai fait tomber l'échelle aujourd'hui. Elle m'a dit non, on va te renvoyer chez toi, ta journée est finie, il est 14h. Ah ok, donc voilà, j'ai cru que j'allais me faire virer, mais finalement tout va bien. Puis j'ai fait ma première scène le 7 août au mercredi open mic du Jockey devant une dizaine de personnes et mes potes de Belgique. Et ça s'est bien passé, franchement ma première scène s'est bien passée, correct. Mais pouvoir dire c'est ma première scène à Montréal, c'est la première fois que je joue au Québec. Vraiment quand j'ai dit ça, je crois que le Régis du passé pleurait un peu de joie à l'intérieur. C'était trop bien d'enfin être là.
Bonsoir public, est-ce que ça va bien ? Parce que c'est ma première scène à vie au Québec.
J'ai fait ma deuxième scène au JT Comedy Club grâce à Benjamin Zanata, qui est un auditeur du podcast et un invité maintenant du podcast, et qui savait que j'arrivais à Montréal. Alors JT, c'est une scène qui est organisée dans une coloc de français. Dit comme ça, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment trop bien. J'ai joué dans leur cour arrière devant une centaine de personnes qui étaient trop motivées, trop bienveillantes, et ça s'est tellement bien passé. Pendant mon passage, j'entendais le rire de Charles Deschamps, qui était le headliner de la soirée, et je me disais, waouh, je suis en train de faire rire un des propriétaires du bordel. Donc j'étais trop content. Puis sur place, j'ai rencontré deux personnes qui vont devenir un peu mes comedy buddies, donc Balthazar et Cyril Yves. Donc deux humoristes français qui sont à Montréal et qui sont aussi talentueux que sympathiques. Je vous conseille vraiment d'aller les voir en show, ils sont vraiment exceptionnels et ils méritent vraiment qu'on aille les voir en show. La soirée au JT est d'ailleurs présentée maintenant par Cyril Yves, donc allez-y, je vous la conseille très vivement. Envoyez un message à Cyril, il vous donnera les infos. Et le début à Montréal était vraiment super cool. J'ai enchaîné deux scènes, j'ai rencontré des humoristes. Charles Deschamps, il accepte de faire mon podcast. J'en parle aussi à Benjamin Zanata et à Cyril Yves, qui accepte également. Mais après ça, honnêtement, ça a été très dur de pouvoir jouer. Il y a un document qui regroupe toutes les soirées d'humour sur la page Facebook Les Humoristes Associés. J'ai contacté toutes les soirées, j'ai envoyé des mails, des messages sur les réseaux, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais en même temps personne me connaît. Donc c'était compliqué d'avoir du booking et d'avoir des réponses. Je m'étais déjà inscrit avant de partir pour jouer au bordel, parce que je sais que les temps d'attente pour jouer au bordel sont assez longs. D'ailleurs, si tu veux y jouer, inscris-toi dès que possible si tu es à Montréal, parce que l'attente pour jouer est au moins 6 mois, parce que tout le monde veut jouer au bordel. Donc si tu veux y jouer, envoie ta demande tout de suite. Et on m'a dit quand je suis arrivé que j'aurais dû jouer la carte du ouais, je suis à Montréal pour 2 semaines, je viens de Belgique, j'aimerais beaucoup jouer. Ce que je vous conseille de faire si c'est le cas et que vous êtes vraiment là pour une durée limitée. Mais moi, j'avais pas envie de mentir et de dire ah, je suis là pour 2 semaines, je suis là pour 1 mois, et que 5 mois après ils voient que je suis encore là et que je voulais juste gratter du booking. J'aurais peut-être dû le faire, j'aurais joué plus dès le début, mais en même temps je voulais être honnête avec les gens, donc j'ai eu un peu de mal au début pour pouvoir jouer. Donc si comme moi vous voulez jouer à Montréal, je vous conseille vraiment d'aller voir les soirées, d'aller parler à la personne qui organise ou qui présente. C'est vraiment important, et moi ça m'a pris du temps pour oser le faire et me sortir un peu les doigts du cul, mais c'est nécessaire. On te connaît pas, tu débarques de Belgique, tu débarques de nulle part, t'as l'air moyennement confiant dans mon cas. Pourquoi est-ce que tu jouerais avant les autres? Il n'y a pas de raison. Après, entre septembre et décembre, j'ai dû faire une 10aine de scènes, dont le plus gros beat de ma vie au MR250, dans une scène bilingue, en français-anglais. Sauf que moi, j'ai fait mon passage en français devant un public qui ne parlait pas le français, et la partie du public qui parlait le français n'écoutait pas ce que je faisais, ce qui était plus compliqué. Mais après, j'ai fait plein d'autres scènes super chouettes, comme une au Clébar dans la soirée de Katia, qui d'ailleurs m'a fait mon premier tatouage quelques mois après ça. Donc ça me fait plaisir d'avoir un souvenir de Montréal tatoué par une humoriste. Donc j'ai un petit haha sur le poignet droit. Si vous me croisez, je vous le montrerai. J'ai fait aussi une scène dans un cégep, donc une école. Donc pour le cégep, pour les Européens, c'est ce qu'il y a entre le secondaire et l'université pour le Québec. J'ai joué aussi dans plein de scènes comme le Social Comedy Club, qui est un plateau que je vous conseille vraiment également, qui essaie d'être plus inclusif et d'être un safe space pour tout le monde. Donc je vous le conseille. Mais en vrai, ça a vraiment pris du temps avant que je commence à avoir des scènes régulièrement, et ça a été dur. Et dans ma tête, je me disais vraiment, mais en fait, j'ai fait tout ça pour jouer moins que si j'étais resté en Belgique. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Donc voilà, le début est compliqué, ça prend du temps. De septembre à décembre, j'ai suivi des cours du soir à l'École nationale de l'humour. J'ai suivi 2 cours. J'ai suivi présentation de numéros avec Mario Bélanger et Richard Fréchette. J'ai suivi également exploration de ton potentiel humoristique avec Mario Bélanger. Donc je vais te parler un peu de ces 2 cours au cas où ça t'intéresse d'aller suivre des cours. Alors présentation de numéro, c'est un cours que je vous conseille vivement parce que c'est très pratique. Pour les 4-5 premiers cours, tu présentes un 5 minutes devant tout le monde et les gens vont te donner leur avis sur ton passage, essayer de l'améliorer, de le rendre plus fort, plus clair, plus structuré. Après ces 5 semaines-là, tu vas choisir un des numéros que tu vas retravailler devant tout le monde. On va faire des brainstorms pour essayer de ramener des idées, de reclarifier, de repuncher. Puis tu vas travailler en individuel avec chaque professeur, essayer de le rendre encore plus fort. Puis en fin de module, tu le présentes devant public. Donc c'est un cours qui est très cool, surtout si t'as peur de montrer une première version devant un public. Là, tu le fais devant tes collègues dans une ambiance qui est assez cool, une ambiance d'entraide où tout le monde essaie de faire en sorte que ton sketch devienne meilleur, donc c'est vraiment cool. Après, honnêtement, ça t'arrive de faire un 5 minutes devant des gens qui ne réagissent pas beaucoup, parce que des fois c'est pas très bon. Puis aussi, tu refais plusieurs fois ton sketch que tu essaies d'améliorer, donc les gens connaissent ton sketch, et donc à un bout d'un moment il n'y a plus de réaction, et donc c'est assez cool pour essayer de s'affranchir de ce truc de ah mais ça réagit pas autant que j'aimerais, et de continuer à le faire du mieux que tu peux, peu importe les réactions. Donc c'est un bon exercice, et donc c'est un cours que je vous conseille, qui est très pratique. Ensuite, j'ai suivi le cours d'exploration, qui est un cours qui est beaucoup plus expérimental. Donc là, dans ce cours-là, on fait des petits exercices, des exercices d'écriture, des impros, des sketchs. Et ce cours, il est intéressant, surtout si t'as peur du ridicule ou de l'improvisation et de tenter des choses. Ensuite, on a des devoirs à faire. Généralement, il s'agit de présenter un 3 minutes pour la semaine suivante où tu vas tester des trucs que t'aurais pas fait par toi-même. Donc moi, j'ai dû faire un 3 minutes en personnage, un 3 minutes libre, mais hors de ta zone de confort, un 3 minutes où tu fais comme si tu étais dans un show d'entreprise et ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce cours parce que ça m'a montré que je savais faire plus de choses que simplement un stand-up classique, mais aussi ça m'a permis de voir que ce que je fais, donc du stand-up, c'est vraiment ce que j'aime faire en fait, et que je suis dans le bon. J'ai pris le niveau 1, mais si tu as déjà de l'expérience de scène, moi je te conseillerais de faire directement le niveau 2, car t'es dans un groupe avec des gens qui sont généralement pas encore montés sur scène et qui se lancent après ce cours. Donc voilà, si tu veux être avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, je te conseillerais de t'inscrire directement au niveau 2. Donc de manière générale, je conseillerais de suivre les cours car ils poussent vraiment à travailler et à tenter des choses. Mais si de toi-même, t'arrives à t'imposer ça et que t'as pas peur d'essayer des choses devant le public, peut-être c'est pas nécessaire pour toi. C'est un petit peu ce que j'ai pensé des cours que j'ai suivis. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les cours. C'est chouette de partager des moments avec des gens qui ont la même passion que toi et qui essaient des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et le fait d'être dans les couloirs de l'École nationale de l'humour, de toucher un petit peu aux rêves que j'avais, bah, ça m'a fait très plaisir. Pour ce qui est de la formation de 2 ans dont je te parlais tout à l'heure, j'ai pas pu l'expérimenter. Mais moi, j'ai croisé pas mal de gens qui sont en première année ou qui viennent d'être diplômés. Félicitations à eux. Et il y a vraiment beaucoup de talent et d'envie chez eux, donc ça a l'air super. Mais il faudra peut-être en discuter avec eux plus tôt. Ils auront un avis plus éclairé sur ce qu'est la formation. Alors, niveau spectacle, je me suis vraiment régalé à Montréal. C'est vraiment incroyable d'avoir accès aussi facilement à autant de shows dans des belles salles. Je suis allé voir énormément de shows. Je suis allé voir Adib Alkalidé avec Québécois Tabarnak, dont il a terminé à tourner. Et le rodage de son nouveau spectacle qui s'appelle en ce moment Des putes et des voleurs, qui est déjà incroyable à l'accès du rodage. J'ai vu Virginie Fortin, Maud Landry, Mike Ward, Jimmy Carr, Arnaud Soli, Reda Saoui, Anthony Rémillard et Charles Deschamps, Shirley Soignon, Pierre-Yves Roy Desmarais, Louis-José Houd, David Bocage, Colin Boudria, Sam Breton, Jay Dutemble, Jérémy Ferrari, P.O. Forger, son cousin, Certes Mathurin, Rosalie Vaillancourt, Chugue Samy, j'en oublie sûrement, mais j'ai vraiment vu beaucoup de shows et j'ai vraiment adoré tous ces shows, tous ces talents, c'est incroyable. J'ai plusieurs spectacles qui m'ont chamboulé et j'ai un coup de cœur, c'est pour une salle qui s'appelle le Jésus, donc c'est écrit G-E-S-U. C'est une salle de spectacle qui est un amphithéâtre en demi-cercle de 450 places et je trouve que moi c'est la taille parfaite pour bien profiter d'un show d'humour. Je trouve que le son est bon, j'aime la salle, j'aime l'ambiance, j'aime l'énergie qui se dégage de cette salle-là. On est plutôt confort en plus. Je trouve que l'Olympia par exemple est plus grand et le son est moins bon. Selon moi, il était moins bien installé, donc voilà. Après, ce qui est très perturbant dans les salles de spectacle en général au Québec, c'est que les gens se lèvent souvent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se lèvent pour aller chercher à boire, pour aller chercher à manger, pour aller aux toilettes pendant le spectacle, ce qui est plutôt rare par chez nous. J'ai l'impression qu'on le fait au début du spectacle et à la fin, et s'il y a une entracte. Mais pendant le spectacle, c'est rare, mais là, ça arrive vraiment souvent, ce que je trouve très perturbant, personnellement, mais voilà.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
C'est une petite différence. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup profité des shows d'humour, il y en a tellement. Donc voilà, c'est assez incroyable, il y a des spectacles tous les jours à l'Olympia, il y a des spectacles tous les jours au Jésus, au Lion d'Or, et dans les comédie clubs comme le Terminal ou le Bordel. Donc c'est assez fou, tous les spectacles d'humour qu'on peut voir et de qualité. Donc voilà, si vous êtes un fan d'humour à Montréal, vous allez vraiment trouver votre bonheur, c'est assez fou. Ensuite, en décembre, j'ai dû rentrer chez moi pour dire au revoir à ma maman, qui nous a quittés le lendemain de mon retour. Je suis resté jusque fin janvier pour reprendre un peu mes esprits et puis je suis reparti à Montréal parce que j'avais la sensation de pas avoir été au bout de l'expérience et passer du temps à s'occuper de rien à part de faire des blagues, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc voilà, désolé pour la rupture dans l'ambiance, mais j'avais envie de le dire. À mon retour, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi au niveau du booking, parce que j'avais créé quelques contacts, que ce soit par les soirées que j'avais faites en spectateur, les scènes que j'avais faites en humoriste, les échanges que j'avais avec les humoristes qui participaient à ces shows. Mais j'ai eu plus de scènes, ça m'a permis d'avoir des shows un peu plus régulièrement. J'ai aussi pu jouer au Bordel Comedy Club. Alors le Bordel Comedy Club, depuis 2015, quand j'avais vu les propriétaires en parler, à Tout le monde en parle, je rêvais d'aller au Bordel, j'en entendais tellement du bien. Tout le monde dit que c'est le meilleur endroit au monde pour faire de l'humour, et vraiment, C'est le cas. Ce lieu est incroyable, il est parfait pour faire du stand-up. Tu joues dans les meilleures conditions possibles, devant un public qui est incroyable, avec une équipe qui est aux petits soins pour que tout se passe bien, dans les bonnes conditions et qui sont des professionnels, donc c'est parfait. Donc voilà, moi j'avais qu'une hâte, c'était d'aller au bordel, de voir un spectacle au bordel et de jouer au bordel. Et j'ai réalisé les deux en allant à Montréal.
Ça va bien ? Ouais ! Alors je me présente, je m'appelle Régis Canon. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis européen. Mais les Québécois que je rencontre me reconnaissent deux qualités. La première, c'est que je suis belge. La deuxième, c'est que je ne suis pas français.
Mon premier passage était correct là-bas, mais j'étais honnêtement trop stressé dans ma tête parce que pendant que j'étais sur scène, je me disais waouh, je joue au bordel, je peux pas croire que c'est vrai, je réalise mon rêve là maintenant. Ah oui, c'est quoi ma prochaine blague? Ce qui est pas le meilleur truc à faire quand tu es sur scène. J'ai même gardé les feuilles du bordel avec l'ordre de passage en souvenir. J'ai capoté d'aller au bordel. J'ai trouvé ce lieu incroyable. Mon deuxième et mon troisième passage là-bas se sont très bien passés ensuite. Voilà, j'ai hâte de pouvoir y retourner, remonter sur la scène du bordel. Ça sera toujours une expérience incroyable. Donc j'espère pouvoir le refaire. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller au bordel. Tous les soirs, il y a des shows d'une qualité qui est folle. Allez voir des spectacles là-bas. C'est un bonheur. Et les soirées régulières, elles sont folles. Je suis allé une fois un vendredi à 19h, j'ai eu sur la même soirée Adi Balkalidé, Louis José Houd, Guillaume Wagner. Incroyable, sur une seule même soirée. Et c'est possible de croiser tous les plus grands humoristes du Québec là-bas. C'est fou, c'est fou. Je vous conseille aussi surtout les open mic. Allez voir le mardi soir. Vous avez Evelyne Roy-Molgat à l'animation et je trouve que c'est la personne qui anime le mieux les soirées d'humour, qui a une énergie folle, qui a une gentillesse et une bienveillance qui fait qu'on a envie de rire. Et les soirées se passent super bien avec elle parce qu'elle fait du très bon travail. Donc voilà, je vous conseille cette soirée-là pour découvrir de nouveaux talents. Alors ensuite, à mon retour au Québec, j'ai participé au Gong Show pour la première fois. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Gong Show, c'est un open mic où les humoristes doivent faire un 3 minutes devant un jury qui est composé de Anthony Rémiard, Charles Deschamps et d'un humoriste invité. S'ils trouvent que le numéro il est pas bon, pas original, problématique, pas drôle, ils te gongent. Il tape littéralement dans un gong et arrête ton passage. Ensuite, ils roastent l'humoriste et lui font des retours.
Oh, je pense que si tu concentres sur ta carrière de l'humour, tu pourrais vraiment percer et faire des grandes choses.
Ça a l'air weird ce que je vais te dire, OK?
Vas-y.
Mais tes lunettes, je pense, te nuisent parce que t'as l'air un peu... Je vais te dire straight pipe. T'as l'air d'un médecin nazi. Avoue, hein?
C'est vrai!
J'avais très peur de faire le Gong Show, j'avais beaucoup hésité avant de le faire. J'ai regardé tous les épisodes avant et je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas grand-chose à perdre et qu'ils étaient pas bien méchants. Donc j'ai participé à l'émission et j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a apporté un peu de booking. J'ai eu de chouettes retours, j'ai même eu quelques clients à la boulangerie qui m'ont reconnu du Gong Show. Donc je conseille vraiment aux humoristes de le faire, l'ambiance elle est folle dans le public et on a tout à gagner à le faire. En vrai, on joue devant une salle qui est toujours remplie, toujours motivée et qui sont dans ton côté, ils veulent pas que tu te fasses gonger. Et vraiment, les retours sont cool et permettent de progresser. Moi, je vous conseille vraiment de venir avec un numéro qui est rodé pour pas vous planter et pour vous épargner un peu de stress parce qu'à partir du moment où le public rit dans la salle, ça redevient une scène classique. Et ou alors, vous pouvez aussi, et ça c'est l'avantage du Gong Show, c'est proposer quelque chose de complètement fou que vous pourriez pas faire ailleurs. Le Gong Show vous offre cette liberté-là et c'est assez fou.
Et on continue ça avec Régis Canon.
Et ce soir, j'ai le goût de me confier. Est-ce que ça vous va? Ok. Pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'étais probablement circoncis.
Un autre point qui m'avait donné envie de venir à Montréal, c'est la possibilité de jouer en anglais, parce qu'il y a beaucoup de shows anglophones également. Moi, j'en ai fait environ 3 par mois en anglais après février, et il y a vraiment de chouettes shows là-bas, même si je trouve que l'ambiance entre les humoristes est un petit peu moins chaleureuse que du côté francophone. Les gens font leur scène et repartent, ça échange un petit peu moins entre les humoristes. Et autre défaut, et ça c'est peu importe les shows en anglais, c'est que tu n'es jamais payé. Pourtant, il y a du monde dans les salles. Hein. Ils paient une entrée, etc. Mais les humoristes ne touchent rien. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est aussi très souvent le cas en français. Surtout pour toutes les soirées open mic. Généralement, c'est pas payé. Mais en anglais, c'est toujours le cas. Et ça, c'est assez dommage. C'est la différence que je ferais avec la Belgique. C'est qu'en Belgique, c'est plus facile d'être payé au début. Avoir des petits cachets, des petits quelque chose à Montréal. Au début, c'est vraiment difficile d'être payé pour la prestation que tu fais. Donc voilà, ça n'a clairement pas été un voyage très rentable, mais très cool. Moi, je venais surtout chercher de l'expérience à Montréal et en français, en anglais. Et je pense avoir vraiment progressé niveau aisant sur scène, surtout en anglais, parce que j'en avais pas fait tant que ça avant d'aller à Montréal et j'en ai fait beaucoup. Mais en anglais, c'est aussi dur de passer dans les soirées plus régulières avec des humoristes plus confirmés. Même quand on fait des passages qui se passent très bien. Moi, j'ai vécu une de mes meilleures scènes à un show qui s'appelle le Show Raw au Brasse d'Or Pub. Chaque blague fonctionnait tellement bien. Le public me faisait des high five quand j'ai quitté la scène. J'étais sur un nuage, mais voilà. Il fallait que je renvoie un message pour me réinscrire le mois d'après pour faire cette scène qui n'était pas payée non plus. Donc voilà, si vous êtes en voyage à Montréal et que vous voulez voir une soirée d'humour en anglais, je vous conseille d'aller au Comedy Nest ou sur le site mtlcomedyclub.com. Mais la soirée que je recommande le plus, c'est la soirée Mondays Am I Right, qui est animée par Ben Cardley au McKibbins, qui est un pub irlandais qui est super cool. C'est une petite salle avec des plafonds qui sont bas et quand le public rit, vraiment ça résonne fort dans cette salle. J'adore l'énergie qui se dégage de cette salle, c'est vraiment trop bien. Pareil, je rêve d'y retourner pour y rejouer. Et en plus, les burgers sont super bons. Petit conseil.
Regis Cannon, everybody!
Ensuite, en février, il y a Nicolas Mazzoni qui m'a contacté pour organiser avec lui le Glue Comedy Show. C'est un show caritatif qui existait déjà en Belgique, qu'il a voulu importer à Montréal pendant son séjour. Donc c'est une scène qu'on a fait une fois par mois et où les bénéfices étaient reversés à une association contre les violences conjugales. Alors c'était vraiment un grand plaisir de faire cette scène avec lui. On alternait l'animation et la chronique à chaque édition. Et on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de monde, en particulier à la deuxième soirée où c'était vraiment rempli. On devait limite refuser du monde. Donc on a fait ces soirées-là au Jockey, qui ont été incroyables, qui nous ont vraiment aidés à organiser cette soirée-là dans des bonnes conditions. Donc s'il y a des humoristes qui veulent organiser des soirées d'humour, jouer leur spectacle ou quoi, contactez l'équipe du Jockey, qui est à l'écoute, super sympathique et qui vraiment facilite les choses pour pouvoir proposer un bon show. Donc merci à eux. Le Glue Comedy Show, on l'a fait tous les mois, donc de février à juillet. Et puis après, ça a été repris maintenant par Thibaut Varin, qui avait participé plusieurs fois à la soirée et qui avait fait la chronique, et donc qui est le sauveur de la soirée. Donc, merci à toi Thibaut. Je vous recommande d'aller voir le show, en plus vous faites une bonne action au passage. Et je fais confiance à Thibaut pour faire une bonne sélection d'humoristes, pour que vous passiez une bonne soirée. Donc j'espère que le Glue Comedy Show existera encore longtemps. Après, j'ai aussi commencé à animer d'abord toutes les deux semaines, puis après à chaque semaine au Bistrot de Paris avec l'ami Balthazar à la chronique. Et je pense que c'est cette soirée-là qui m'a fait le plus progresser et prendre confiance sur scène, parce que c'est pas la salle la plus facile. Il y a des machines à sous à l'arrière, il y a une table de billard, et il y a vraiment des gens qui s'en foutent du spectacle et ou qui ont trop bu. Mais on avait aussi un public qui était toujours plus nombreux à chaque édition et qui était super enthousiaste, super chouette, avec quelques habitués. Salut Maxence si tu écoutes. La dernière là-bas, elle était vraiment magique et je vais garder ce souvenir en tête toute ma vie. Mais ça pousse vraiment à travailler un endroit comme ça et à pas se laisser distraire. Donc voilà. Donc merci Balt pour la confiance et m'avoir proposé de faire l'animation de cette soirée-là. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire et ça m'a fait du bien.
Méchant, riez, si vous trouvez que c'est drôle, bah ça sera une première pour Balthazar.
Régis, j'avais trop peur, j'ai une peur dans la vie, c'est quand je deviens pote avec un mec blanc, j'ai toujours un peu peur, tu sais, d'être son premier ami noir et que genre, ils veulent juste être pote avec moi parce que je suis noir. Mais Régis, j'ai jamais eu peur d'être son premier ami noir, parce que je savais que j'étais son premier ami tout court. Merci Régis.
Et au niveau du podcast, j'ai enregistré moins d'épisodes là-bas que j'aurais aimé, parce que honnêtement, entre les scènes, le travail à temps plein et les appels avec mon amoureuse en décalage horaire, j'ai eu moins de temps que je pensais pour faire des recherches, enregistrer les épisodes, faire le montage. Donc voilà, j'ai enregistré un petit peu moins d'épisodes que j'aurais aimé, parce que j'aurais voulu enregistrer des épisodes avec quasiment tous les humoristes que j'ai croisés, parce qu'il y a beaucoup de talent. Mais voilà, honnêtement, j'ai fait de mon mieux et c'est déjà ça. Et j'ai eu la chance que Radicalis, donc une humoriste québécoise qui est venue en Belgique, qui revient bientôt je pense, j'ai eu la chance qu'elle me prête du matériel de podcast de meilleure qualité, et j'ai vraiment senti une amélioration au niveau de la qualité sonore. Je pense me racheter ce même matériel pour pouvoir continuer, mais je vais d'abord mettre des sous de côté, parce que j'en ai besoin. Comme je vous ai dit, le voyage à Montréal n'était pas très lucratif, donc est-ce que c'est le moment de vous encourager à faire un don pour le podcast ? Pourquoi pas ? Je peux également vous conseiller de devenir un abonné Patreon. Pourquoi pas ? Je pense que c'est le bon moment pour vous le dire. Voilà. Le lien est en description de l'épisode, si vous voulez. Mais voilà, merci à mes invités. J'ai encore 3 épisodes qui sont enregistrés à Montréal à monter et à vous partager. Donc j'ai un épisode avec Anthony Rémillard, un épisode avec Reda Saoui et un dernier avec Jean-Michel Martel que j'ai hâte de vous partager. Pour continuer sur mon expérience, en avril, j'ai eu mes premiers shows payants grâce au Terminal Comedy Club. Donc le Terminal, c'est un de mes endroits préférés à Montréal. C'est un très beau comedy club, super accueillant, avec une équipe super cool, où il y a vraiment des bons shows là-bas. Je vous conseille les open mic le dimanche, qui sont présentés par Guillaume Pelletier avec Pascal Marino et Cyril Yves à la chronique. C'est un très bon show pour seulement 5$. Donc niveau rapport qualité-prix, on fait pas mieux. Et les plateaux tous les jours qui sont organisés sont vraiment bons. Également, c'est un endroit que j'adore. J'ai aussi hâte de pouvoir y rejouer un jour.
Le prochain a un podcast qui s'appelle Humeur humoristique parce qu'il interview plein d'humoristes. Il fait ça depuis un petit bout. Je suis très content d'en recevoir ce soir. J'aimerais s'il vous plaît qu'on donne une bonne main d'applaudissement pour Régis Canon!
Ensuite, en juin, j'ai pu assister et participer au Minifest. Donc, le Minifest, c'est un festival incroyable dans le quartier d'Hochelaga avec plein de shows concept vraiment cool. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut reconnaître aux humoristes québécois, c'est qu'ils tentent des choses. Ils n'ont pas peur d'aller dans l'absurde, de briser les codes, de faire des soirées à thème. Et il y a vraiment des shows qui sont incroyables, des shows qui sont indescriptibles, mais qui sont hilarants. J'ai aussi pu enregistrer mon premier podcast face au public et je trouvais ça super cool qu'ils me donnent cette chance sans me connaître. Franchement, ça crée vraiment des opportunités à un festival comme ça pour ceux qui commencent, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, je vous conseille vraiment le festival Minifest à Hochelaga. Merci encore Chuck Thompson pour l'aide technique, et à Colin Boudria qui a accepté mon invitation, qui était mon invité dans le podcast en live. L'épisode est toujours disponible. Si vous voulez nous voir, c'est également disponible sur YouTube. Ensuite, en juillet, c'est la période des festivals, donc il y a beaucoup moins de soirées d'humour, style open mic, etc. Donc, si tu veux venir jouer, c'est peut-être pas la meilleure période pour venir, juillet et août, mais c'est incroyable le nombre de shows qui est possible de voir pendant le ZooFest et le festival Juste pour Rire. Il y a le festival Just for Laughs pour le côté anglophone. Et moi, j'avais envie d'aller voir des spectacles tous les soirs dans les salles, mais aussi dans les scènes extérieures gratuites. Mais vraiment, il fallait faire des choix. Je pouvais pas aller tout voir. Mais si vous êtes fan d'humour, vous allez adorer. Il y a tellement de shows, c'est incroyable. Sur la même semaine, j'ai pu voir Daniel Sloss, Anthony Jeselnik, Eddie Izzard et plein d'autres. C'est incroyable. Par contre, le site internet est vraiment très mal fait, c'est très peu intuitif, c'est vraiment pas clair, mais franchement, ça vaut le coup d'insister un petit peu pour aller voir tous ces spectacles incroyables. Donc voilà, armez-vous de patience si vous réservez des places, mais ça vaut le coup. Ensuite, début août, j'ai dit au revoir à mes collègues avec qui je me suis tellement bien entendu, qui est un incroyable soutien dans les moments difficiles, à mes amis belges qui sont venus à la même période que moi, à mes colocs avec qui je me suis super entendu, avec qui je me suis super bien entendu, à tous les humoristes que j'ai croisés. Alors je vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier et c'est pas l'idée, mais merci vraiment pour tout, je pense que vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître parce que je vous ai déjà remercié dans la vraie vie. Donc voilà, maintenant que j'ai pris le temps de prendre du recul, je dirais que j'ai vraiment bien fait de tenter cette expérience. Il y a eu des moments qui sont très durs, des moments de doute, des moments où je voulais juste rentrer et abandonner le stand-up, des bides, mais c'est pas ces moments-là qui me reste de cette aventure. Je repense juste au bon moment. J'ai rencontré des gens super. Je pense avoir pris en confiance, que ce soit sur scène ou dans la vie en général, d'avoir progressé en stand-up, c'était vraiment mon objectif de départ, d'avoir un peu moins peur d'aller vers les gens et de tenter des choses. Vraiment, je dois m'inspirer des humoristes québécois que j'ai croisés, car beaucoup d'humoristes tentent des choses, se prennent des bides, mais continuent, c'est pas grave. Je pense qu'à Montréal, on essaie un peu plus d'aller au bout des choses et de tenter, même si ça se passe pas comme prévu. Ce qui aide aussi, c'est que le public est au courant que ça peut arriver, que les humoristes testent des choses et que ça marche pas toujours, donc ils sont un peu plus indulgents, mais c'est vraiment quelque chose que je dois garder en tête. Une différence que j'ai constatée avec l'humour en Belgique, c'est qu'en Belgique, on est beaucoup plus mélangés. Donc les humoristes qui font leur première scène, ils côtoient un peu plus les humoristes qui vivent de l'humour et qui ont du succès, alors qu'à Montréal, c'est un peu plus séparé. Il y a vraiment cette notion de monter des étapes et côté business, c'est un peu plus marqué. je trouve, à Montréal. Même si c'est peut-être moi qui suis pas assez présent en Belgique pour m'en rendre compte. Au niveau de la vie à Montréal, si ça vous intéresse, j'ai vraiment aimé cette ville. En même temps, c'est une ville où je peux aller voir des shows d'humour en prenant un métro, donc c'est le paradis pour moi. Mais j'aime les parcs, j'aime les gens qui sortent en terrasse ou sur leur balcon dès qu'il y a un petit peu de soleil, j'aime les parcs nationaux incroyables du Québec, j'aime les œuvres de street art dans la ville un peu partout, les festivals en été, les rues piétonnes. J'ai beaucoup aimé c'est le côté chaleureux, souriant et accueillant des Québécois, j'aime toujours autant cet accent québécois incroyable. Après, comme beaucoup d'expats, j'ai trouvé que c'était vraiment dur de se faire des amis québécois, de créer des liens avec eux, et la plupart de mes amis là-bas étaient français. Est-ce que tu sais à quel point il faut être désespéré pour rechercher l'amitié d'un Français? C'est fou. Bien sûr, je plaisante pour les Français qui m'écoutent, mais j'aime bien vous charrier. Mais voilà, c'est assez dur de se faire des amis québécois. Après, peut-être parce qu'ils savent qu'on est là pour un temps limité, qu'ils veulent pas s'attacher, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et pour en avoir discuté avec d'autres expats, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais voilà, faut peut-être rester plus longtemps. En tout cas, j'ai envie d'y retourner, de pouvoir y rejouer, ce sera avec un énorme plaisir. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est les prix des logements qui sont vraiment exagérés. J'ai eu la chance de trouver des colocs incroyablement cool, mais vivre seul ou à deux, c'est vraiment super cher. La vie sur place est chère, et pour tout ce qui est niveau bouffe, vraiment là, l'Europe gagne haut la main. Désolé le Québec, j'adore la poutine, j'en ai beaucoup mangé, j'ai adoré ça, mais pour le reste, on fait ça mieux. Enfin, quand je dis « on », je veux pas dire « moi », parce que je suis vraiment nul pour cuisiner. S'il y a des colocs qui écoutent, ils pourront vous dire la quantité astronomique de pâtes que j'ai cuisinées. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau de l'hiver, qui fait souvent peur aux Européens, moi j'ai adoré. Mais en même temps, j'aime beaucoup la neige. J'adore faire du patin à glace, et là on peut en faire partout dans tous les parcs, sur plusieurs places, dans les arénas, et c'est gratuit. Donc c'est incroyable. Et avec le bon équipement, c'est vraiment super supportable. Après moi j'étais à Montréal tout le temps, donc les routes sont dégagées, il fait pas si froid. Et on n'a pas eu l'hiver le plus froid de ces dernières années non plus. On a eu peut-être 2 jours à moins 26, ressenti moins 38, mais c'est tout. Sinon, une moyenne à moins 16, tout à fait supportable, avec le bon équipement. Donc moi, je trouve que c'est pas un frein l'hiver au Québec. Donc voilà pour mon expérience personnelle à Montréal qui m'a été très bénéfique et qui m'a surtout apporté une confirmation. J'ai très envie de faire du stand-up et de devenir humoriste à temps plein. Je veux dire, on fait pas tout ça si c'est pas important pour soi. Je me rappelle m'endormir en mangeant comme un enfant de 3 ans sur mon plat parce que je suis juste épuisé d'enchaîner le travail et les shows et ce soir-là de me rajouter un show parce que j'avais envie de tester une idée à un open mic. Je pense vraiment que ça me tient à cœur. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ce que je veux dire, c'est peut-être bateau. Mais ma maman a travaillé toute sa vie dans un boulot qu'elle n'aimait pas pour que nous on manque de rien. Et elle n'a même pas pu profiter de sa retraite. Donc moi je veux faire quelque chose qui me fait vibrer et qui me rend fier. Ça a aussi mis en évidence un gros problème que j'ai, c'est que j'écris pas assez. J'ose pas assez, je me juge beaucoup trop. J'ai vraiment peur de me planter, mais on s'en fout. Il se passe quoi quand tu bides ? Rien du tout. Bon, ça ma tête l'a compris, intellectuellement parlant, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer. Mais ici, à mon retour en Belgique, dès septembre, j'ai envie de faire énormément de scènes, donc j'espère que vous allez me voir beaucoup sur scène, un peu partout, et que je vais continuer à progresser en stand-up, essayer de proposer des choses, d'écrire des bonnes blagues, et de faire rire le public. C'est vraiment mon objectif pour cette année, et essayer de devenir l'humoriste que j'ai envie d'être. Donc voilà, allez voir les humoristes en show, c'est souvent juste des gens qui vivent leur rêve d'enfant et qui veulent juste essayer de vous faire rire et oublier quelques instants que la vie, c'est chaud putain. Donc, allez les voir, profitez de tous ces artistes incroyables qui existent, merci pour votre écoute, à très bientôt, sur scène ou ailleurs. Merci.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique, n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.